trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Véronique Richefleurès est avec nous ce soir, économiste indépendante et présidente de RF Research. Bonsoir Véronique.
Bonsoir, au revoir.
Gilles Bazicien nous accompagne également. Bonsoir Gilles.
Bonsoir.
Vous êtes le président d'Equity GPS et Florent Delorme à nos côtés. Bonsoir Florent.
Bonsoir.
Ravi de vous retrouver, vous êtes stratégiste chez MNG Investments. Florent, habituellement l'investisseur avisé, pragmatique, a souvent tort de tenir un peu trop compte du bruit politique dans sa prise de décision d'investisseur. Est-ce que c'est un playbook valable au regard de l'actualité? Je parle bien sûr de la France, mais peut-être pas uniquement du cas français. Ou est-ce que les choses sont un peu différentes dans le monde aujourd'hui avec une dimension politique qui devient aussi un driver de marché?
Je pense qu'il est... Il est bon que l'investisseur s'intéresse au cadre politique, même si effectivement, on a l'habitude de dire ces dernières années que finalement, ça a peu d'intérêt, c'est parce qu'on a été confronté...
On dit ça a posteriori, généralement. Hein.
Voilà, et parce qu'on a été confronté à des situations politiques qui, en réalité, ne remettaient pas fondamentalement en cause la structure économique dans laquelle on était placé. Mais ça ne veut pas dire que la dimension politique n'est pas importante. Ça veut juste dire qu'on était sur des situations qui ne méritait pas de s'inquiéter parce que, en réalité, ce qu'on interprétait comme une rupture politique n'en était pas une. Pour qu'il y ait rupture politique, il faut qu'effectivement des variables majeures de fonctionnement du capitalisme soient en cause. Voilà. Alors, en ce qui concerne la situation...
Ceci étant dit...
la situation présente, qu'il faut effectivement analyser avec attention, effectivement, pour notre part, il nous semble qu'il serait prématuré d'avoir une analyse très sombre de la situation, et on peut trouver de nombreux arguments pour justifier cette relative sérénité. Donc je peux effectivement
m'engager...
Bien sûr,
les marchés restent calmes aujourd'hui et gardent leur nerf, effectivement, sur la base de quel rationnel, Florent?
Donc la première des choses, ça a été répété sur de nombreux plateaux, c'est qu'effectivement, aucune majorité absolue ne s'est dessinée à l'occasion de ces élections, ce qui signifie donc que les programmes les plus dispendieux, en particulier celui du Nouveau Front Populaire, mais ça aurait été le cas aussi pour celui du Rassemblement National, ne pourront pas être déployés dans leur intégralité. Et donc là, effectivement, le Nouveau Front Populaire a une majorité beaucoup trop courte pour imaginer, quand bien même le président de la République ferait le choix d'un Premier ministre issu de ses rangs. Donc le Nouveau Front Populaire a sans doute une majorité beaucoup trop courte pour imaginer pouvoir déployer intégralement son programme. Donc ça, c'est un argument qui reste l'argument numéro un. Et puis ensuite, au-delà de cet aspect très technique du fonctionnement de la Ve République, il faut rappeler qu'effectivement la France évolue dans un cadre institutionnel européen, avec l'appartenance à l'Union européenne, et surtout, et c'est là l'élément clé, à la monnaie unique, avec ce que ça implique en termes de respect du pacte de stabilité et de surveillance par les autorités européennes. Donc, quand bien même le NFP voudrait, avec l'accord à ce stade très improbable du Parlement, s'engager dans des politiques budgétaires extrêmement coûteuses, la pression monterait très très vite du côté de l'Union européenne. Et effectivement, dans la mesure où le NFP n'envisage pas du tout une sortie de la zone euro, on ne voit pas comment le rapport de force ne se terminerait pas par un recul du Nouveau Front Populaire, comme ça avait été le cas pour François Hollande, qui avait débuté sa campagne en indiquant que son ennemi, c'était la finance, qui avait lui-même essayé d'engager un rapport de force avec l'Union européenne, avec un résultat assez limité. Donc le point clé, c'est effectivement l'appartenance à la zone euro. Et quand on dit qu'il faut effectivement surveiller la dimension politique, c'est notamment ce facteur-là qui reste le sujet décisif.
Pour les marchés.
Oui, pour les marchés. Si effectivement, dans les prochaines années, il y avait de ce point de vue-là un revirement avec à la fois l'électorat français qui, dans sa majorité, se mettraient à douter de la monnaie unique, ce qui n'est pas du tout le cas maintenant, puisqu'il y a un taux d'adhésion à la monnaie unique
historiquement élevé,
qui atteint des records.
Partout mais en Europe.
Le paramètre politique à surveiller pour un investisseur dans les années qui viennent, c'est le taux d'adhésion des Français à la monnaie unique, puisque les partis politiques...
Et au cadre qui va avec.
Et au cadre qui va avec, puisque les partis politiques qui collent, disons, à ce souhait majeur de la population française, et aucun n'envisage la sortie de la zone euro. Donc, s'il y a bien un sujet où les Français sont unis, c'est sur l'appartenance à l'euro. Voilà. Et puis, troisième série d'arguments qu'on peut mettre en avant, et puis je laisserai mes collègues s'exprimer, c'est effectivement la surveillance que les marchés vont opérer sur un éventuel budget excessif qui serait voté. Donc là, je parle vraiment au conditionnel. Il faudrait déjà que les étapes précédentes soient passées. Mais quand bien même on aurait une chambre qui finirait par voter, une commission européenne qui serait un peu souple sur l'interprétation des critères du pacte de stabilité, il y aurait les marchés qui joueraient leur rôle de vigie en dernier ressort. Et on verrait indéniablement les taux de la dette française monter, ce qui serait de nature très rapidement à ramener le gouvernement à la réalité. Sauf à ce que la BCE, par ses mécanismes d'intervention anti-fragmentation, décide de rentrer dans le jeu. Mais ça semble peu probable, puisque ces mécanismes d'anti-fragmentation stipulent très clairement qu'ils ne peuvent être mis en œuvre que lorsque la BCE considère qu'il y a une surréaction des marchés sans lien avec la réalité.
Ça sous-tend une situation de crise non ordonnée, pour dire les choses.
Voilà. Et en tout cas, ça ne peut pas se faire quand il y a un volontarisme dans la dépense publique en dehors du pacte de Maastricht. Donc une intervention de la BCE pour venir en soutien d'un gouvernement français qui voudrait effectivement dépenser très largement semble une hypothèse là aussi très improbable. Donc on voit bien qu'il y a trois grandes raisons qui méritent de rester à ce stade serein. Et en réalité, le mot final de tout ça, ce sera la prochaine présidentielle, puisqu'il faut, il faut attendre effectivement qu'une personnalité politique présidentiable émerge, restructure un petit peu l'offre politique et essaye d'attirer à elle effectivement une majorité pour revenir à une situation plus normale. Mais on a sans doute trois années devant nous de statu quo et de refonte de l'offre politique pour essayer d'arriver à la présidentielle avec une dynamique majoritaire. Mais offerte par qui, effectivement, à ce stade, ça reste une question.
Véronique, les leçons que vous tirez de ce scrutin français, et puis l'idée du statu quo, alors je ne vais pas dire qu'il plaît au marché, mais qui est peut-être la moins pire des solutions ou le moins pire des résultats pour les investisseurs, ça implique aussi que si la France ne fait rien, reste immobile, on a une trajectoire de finances publiques qui continue de se dégrader à ce stade. C'est-à-dire que je ne suis pas du tout un ayatollah. Enfin, les déséquilibres doivent être regardés dans les deux sens, j'imagine. Trop d'excédents, trop de déficits. Là, en l'occurrence, il y a quand même un vrai sujet sur spécifiquement la trajectoire de finances publiques françaises, en absolu et en relatif comparé à ce qui se fait ailleurs en Europe, y compris sur le plan des pays périphériques, donc qui met quand même une pression supplémentaire. Ne rien faire, c'est laisser se dégrader le déficit public encore plus fortement que ce qu'on a vu l'an dernier.
Oui, sans doute. Alors, je pense qu'il y a plusieurs sujets. Il y a d'abord le fait que les marchés, en général, préfèrent la perspective de coalition que des ruptures politiques. Ça marche tout le temps. On constatait la même chose il y a longtemps sur l'Allemagne, etc. Et je pense que par rapport aux alternatives qu'on avait à la fin de la semaine dernière, il y a déjà la préférence pour ce qui se profile, c'est-à-dire, il n'y a pas de majorité, donc il va falloir faire ensemble. Ouais. Faire ensemble, ça ne veut pas dire forcément faire avec ensemble, mais ça veut dire arriver à des consensus. Et puis si on n'arrive pas à des consensus, on aura un gouvernement qui ne pourra pas aller très loin, donc qui ne pourra pas déployer des mesures trop chocs, etc.
Parce que trop clivantes,
trop clivantes, etc. Et donc je pense que ça justifie une partie de la réaction positive de marché. Enfin positive.
Oui,
la neutralité marché.
Oui, c'est ça. Le calme.
Sortons un peu du cadre français. Moi hier, je trouvais intéressant d'écouter les réactions des Allemands ou de certains Européens sur qui se disaient soulagés. soulagés que la France ait repoussé l'extrême droite. Non, n'oublions pas cette considération parce qu'elle est essentielle et je pense qu'effectivement il y a également sans doute une partie du réconfort du marché et c'est pas une histoire seulement des finances publiques, des équilibres, etc. Non, je pense qu'il y a vraiment un sens politique aussi important qui est présent, difficile toujours à mesurer, mais qui doit compter. Et puis l'autre chose, on a beaucoup parlé des déficits, du contexte budgétaire français, qui est indéniablement préoccupant, c'est pas moi qui veux le dire contraire. Il est d'autant plus préoccupant qu'on a dépensé beaucoup pour rien sans effet. Donc ça, c'est encore plus inquiétant. Néanmoins, je ne suis pas sûre que les marchés observent cela avec beaucoup d'inquiétude. Finalement, on a de l'eau est passée sous les ponts quand même ces 5 dernières années par rapport à la tenue des finances publiques. Il y a eu des Covid, il y a eu des guerres, il y a eu finalement de l'argent public dépensé comme jamais personne ne l'aurait imaginé. Et c'est passé. C'est passé pourquoi ? Parce qu'il y a quelque part une acceptation de ce rôle des pouvoirs
de la politique budgétaire.
La politique budgétaire, pour des tas de raisons.
Oui, oui. Dans l'atteinte d'objectifs stratégiques.
Souveraine, reconstruction industrielle, tout un tas de choses autour desquelles il y a quand même un consensus. Et peut-être que nous, économistes ou investisseurs, on est un peu trop focalisés sur cette problématique-là et que si on prend du recul... Mais finalement, alors il y a un degré d'acceptation, et celui-là je ne le connais pas, personne ne le connaît. Ouais. Donc ce que je dis est probablement à mesurer, mais je me demande si effectivement cette problématique-là est une vraie problématique, sachant que derrière, il y a la BCE. Et il y a une BCE qui ne va pas faire plaisir, qui ne va pas être là pour tous les rendez-vous, et notamment pour un gouvernement dont elle pourrait juger l'orientation sanctionnable ou mauvaise, mais qui est quand même là dans un contexte géopolitique qui est très particulier et où, quelque part, cette dimension géostratégique de protection qu'on a très bien vue ces derniers trimestres, quand même, incontestablement, fait qu'elle a elle joue ce rôle de matelas de sécurité. Je ne sais pas jusqu'où. Et comme vous le disiez très justement, ces marges de manœuvre ou d'intervention sont normalement cadrées et sauf que tout le monde sait qu'on ne va pas laisser tomber la France et qu'on ne va même pas laisser émerger un risque de crise souveraine parce que l'environnement et
l'actuel
ne le permet pas. Et d'accord. Voilà, tout ça, ce ne sont pas des bonnes raisons. Mais ça me semble permettre de mieux expliquer la relative distance des marchés, la principale étant sans doute l'absence de majorité et le besoin de consensus si on veut avancer. Maintenant, attention. Le pire scénario, il est peut-être peut-être dans quelques mois. C'est celui de où la France s'est figée. C'est-à-dire qu'on n'a pas de gouvernement, ou on en a un qui échoue, etc., et ça ne tient pas. Et finalement, il peut y avoir des mouvements sociaux, parce qu'il y a eu une revendication ou des revendications très puissantes. Et ça, on ne le mesure pas du tout. Et si la France donne le sentiment d'être un espèce de magma politique d'instabilité permanente qui va déboucher sur quelque chose qu'on ne sait absolument pas prévoir dans 12 mois, ou un peu plus que 12 mois avec de nouvelles législatives dans un environnement politique qui pourrait être celui qu'on a eu depuis 15 jours, 3 semaines ou davantage, alors ça
j'entends.
Ça peut être
c'est le déclencheur.
Une sanction.
Mais ce n'est pas le déficit en tant que tel que vous voyez être le déclencheur, toute chose égale par ailleurs.
Je pense qu'on y donne, on a tendance à donner moi-même un peu trop d'importance.
C'est très honnête de le dire effectivement comme ça. On n'est pas.
Cas, je m'interroge.
Oui. Il y a une distance qui s'est créée entre les marchés et ces situations de déficit, même si la France est plus regardée que jamais, procédure de déficit excessif, les agences qui vont revenir, qui ont déjà alerté, etc. Peut-être d'ailleurs qu'à ce stade, pour les investisseurs, ça suffit de savoir que la France est quand même encadrée de ce point de vue-là. C'est peut-être quelque chose de suffisant à ce stade.
D'ailleurs, quand on fait des scénarios, un peu c'est ce que vous disiez, soit si à un moment donné ça dérape, les spreads vont s'envoler et de toute façon ça va corriger derrière. Donc c'est une histoire de 3 mois ou 6 mois de crise et je pense que ça c'est dans les esprits, y compris les politiques, et que ça c'est quand même un frein.
Le film crise britannique, Liz Truss, octobre 2022. Et voilà, c'est encore un film récent de ce point de vue-là, et sans doute dans toutes les mémoires des chancelleries et des ministres des Finances en Europe. Vos commentaires, bien sûr, Gilles, et puis sur cette relation entre politique, alors je disais bruit politique, mais dimension politique et dynamique des marchés, course des marchés. On parlera peut-être d'aspects plus fondamentaux après, entre l'inflation américaine et les résultats des entreprises. Mais cette dimension politique, elle est quand même malgré tout de plus en plus envahissante. Les élections britanniques, on scrute la coalition en Allemagne qui se met d'accord sur un budget à minima, sans ambition, mais qui trouve quand même cet accord politique, etc., etc., etc.
Oui, je pense que la politique quand même compte. La politique au sens, le climat de façon générale. Et pour apprécier une situation, vous savez que j'aime bien, moi, pour établir des diagnostics, élargir la focale, ce qui permet également de trouver de nouvelles solutions à un diagnostic et à une problématique. La problématique, quand même, en zone euro et en France, la France représentant une partie importante de la zone euro, c'est quand même qu'il y a moins de visibilité. C'est le moins qu'on puisse dire. Alors après, on traduit ça par risque de paralysie, risque de rien faire, risque de ne pas continuer à réformer, ou éventuelle crisette.
On est un peu dans la situation de l'Assemblée de 2022, mais en un peu plus pire, quoi, si je puis dire. À la marge, ça ne s'est pas amélioré, ça s'est dégradé. Mais il y a toujours ce sentiment un peu de...
C'est ça. Et les observateurs de l'histoire aiment également nous rapporter à la 4e République.
Bien sûr. Hein,
et l'instabilité politique qui prévalait alors et qui était, alors dont on pouvait difficilement apprécier la corrélation avec l'évolution des marchés, on n'a pas les historiques, mais on peut quand même se imaginer que le prix des actifs français et la capacité des grands investisseurs institutionnels, y compris les Français, à investir, à risquer sur les marchés, tous les marchés, obligataires, actions, crédits, etc., est moins élevé relativement quand on est dans un contexte de moins de grande transparence et d'incertitude, voire de possible instabilité. Alors quand on élargit un peu la focale, quand même, il y a un diagnostic qui est partiellement propre à l'ensemble du monde industrialisé. Et malheureusement, pour partie aussi, une espèce de dégradation de la situation de la France sur le long terme. J'en veux pour preuve la situation des finances publiques, mais aussi des taux de chômage structurels sur le long terme, de la capacité des financements des retraites, de degré d'innovation, du degré de compétitivité, de l'économie,
productivité,
adhésion aux règles, respect des règles, etc., etc. Et là, on fait une analyse qu'on met à jour régulièrement. La France ne fait pas partie des meilleurs pays développés dans le monde.
C'est pas un triple A.
Depuis longtemps.
Enfin, selon vos critères à vous.
Selon nos critères, nous on utilise des termes triple A plus et puis le reste. Ouais. Triple A plus, c'est pas seulement une question d'agence de rating.
Mais
on a une quinzaine de critères qualitatifs. Voilà. Et on peut identifier que les valeurs, en règle générale, dans ces pays-là, ont tendance à surperformer sur le très long terme, et ça correspond à des avantages compétitifs très forts, et d'autant plus forts qu'ils sont diffus et multiples. Alors, donc ça, c'est malheureusement... C'est pas notre situation, on fait pas partie, et on s'en éloigne. Doucement, mais régulièrement. Et l'épisode actuel, c'est également un épisode d'éloignement.
Ouais.
Le deuxième élément qui est plus général au monde développé, c'est l'inflation. Parce que quand on regarde l'inflation, on se dit, on la regarde à 12 mois ou à 3 mois, on se dit 2,5%, mon Dieu, c'est bas, le problème est résolu, pourquoi les banquiers sont trop, notamment la Fed, qui a des taux d'intervention beaucoup plus élevés, ne baisse pas rapidement ses taux. Et en fait, quand on analyse vraiment la problématique, c'est que, si on regarde pas sur 12 mois, mais sur 4 ans, eh ben on a fait plus 18%.
Oui.
Sur un panier moyen qui est en fait largement largement conventionnel. Mmh. Et ce qui est différent selon à qui on s'adresse, mmh. selon qui subit.
Bien sûr.
D'accord ? Si vous prenez dans tous les pays développés, la médiane des salaires, des revenus, en sens large, inférieure, eh ben, c'est des gens qui souffrent beaucoup plus de l'inflation.
Oui, oui.
Énergie, essence, etc., nourriture, qui représente...
L'inflation ne frappe pas,
proportion. Pas du tout. Et donc, cette augmentation des demandes c'est très désagréable d'être dégradé, hein, pour tous les primates supérieurs. Hein, on peut avoir des expériences sur des animaux qui sont assez intéressantes en la matière.
Et puis il y a l'expérience en temps réel.
L'espèce humaine en particulier. C'est très désagréable. Et on voit, en fait, hein, des demandes et donc en face des promesses qui sont plus ou moins réalistes. Et ça, c'est un problème. Et ce problème-là, selon nous, il se résout en regardant et en n'oubliant pas dans son allocation d'actifs les pays de meilleure qualité dans le monde, qui représentent 20% de la capitalisation boursière des pays occidentaux.
D'accord. Donc c'est l'occasion de se replonger dans cet univers des AAA+, comme vous l'avez noté chez vous, chez Equity GPS. Est-ce que ça veut dire, ce que nous dit Gilles Bazissier, je traduis sa question pour vous, Florent, mais est-ce que ça veut dire qu'il y a des raisons d'imaginer que les actifs français, actions, OAT, taux, crédit, est une place structurellement peut-être plus faible dans certaines allocations d'actifs de grands investisseurs globaux. Vous évoquiez là cette période de 2-3 ans jusqu'à la prochaine présidentielle. Enfin, je ne sais pas combien de temps il y aura jusqu'à une prochaine présidentielle, mais sur le papier, il y a 3 ans devant nous. Est-ce que pendant cette période-là, on peut imaginer des grands investisseurs internationaux dire « Ben voilà, la France action dans le MSCI World, c'est 2,7%, déjà c'est pas beaucoup. Ben, nous, on en aura plutôt 2,5 ou 2 plutôt que 3 ou 3,5. » quoi.
À moyen terme, je ne crois pas, puisque le marché va donner du temps à la classe politique française pour trouver un cap. Donc je ne pense pas qu'il y ait de remise en cause fondamentale de la part des investisseurs sur la question de la détention d'actifs français pour ce qui concerne la dette. Véronique l'a évoqué. À ce stade, les questions d'endettement ne sont pas sérieusement prises en compte par le marché, qui a tendance à mettre de côté cette problématique-là, et ça peut durer encore quelques années. Et pour la question du tissu industriel français, dont on sait bien qu'il est un peu en souffrance, je dirais que les investisseurs se reportent plutôt sur des multinationales qui ont une exposition assez large à l'international, et de ce fait, même en achetant le CAC 40, on est quand même exposé bien au-delà de la France. Donc il n'y aura sans doute pas de défiance à l'égard des actifs français dans les prochaines années. Par contre, il est vrai quand même que, tout en restant relativement confiant sur... Ce qui peut se passer sur les marchés sur les prochaines années. Il ne faut effectivement pas perdre de vue quand même, comme ça a été dit à l'instant, que la trajectoire quand même de l'économie française et de ses finances publiques n'est pas la bonne. Il y a un problème structurel de détérioration progressive des finances publiques, avec une difficulté à financer des investissements productifs, ce qui se traduit par une faible productivité et donc une croissance potentielle faible. Alors, quand on est confronté à une situation comme ça, il y a effectivement deux tentations. La première, c'est de mener une politique de l'offre, ce qu'Emmanuel Macron essaye de faire.
C'est le cas depuis 10 ans plus, peut-être, maintenant, en France.
C'est pas nécessaire aussi, donc politique de l'offre, on essaye de relancer...
quinzaine d'années qu'on est là-dedans.
Qui est censée amener de la croissance et du pouvoir d'achat. Bon, il est vrai que malheureusement ces politiques de l'offre n'ont pas donné les résultats escomptés. C'est pour ça qu'il y a une partie de l'électorat qui est tentée par des politiques très, très keynésiennes que le nouveau Front populaire incarne, avec, je le lisais encore ce matin, cette idée que le plan de dépenses équivalent, d'après estimation que j'ai pu voir, à 8 points de PIB sur les 3 prochaines années, qui n'est pas...
C'est deux mini-budgets de Liz Truss.
Voilà. Dont on dit qu'il n'est pas complètement financé, mais l'argument qui est mis en avant par les économistes du Nouveau Front Populaire, c'est de dire que En bon keynésien,
oui.
Plus cette dépense et la consommation qu'elle va
provoquer, ça va boucler, ça va reboucler, quoi.
Provoquera un surcroît de croissance qui provoquera des rentrées fiscales. Oui. Donc on est toujours dans les mêmes débats entre politique de l'offre et politique keynésienne. Et c'est vrai que la France reste à ce stade dans la difficulté de choisir un cap. Et quand on disait tout à l'heure que la politique ça compte, c'est que effectivement, si le nouveau Front populaire parvenait un jour au pouvoir avec une majorité claire et avec, disons, un représentant très déterminé comme peut l'être Jean-Luc Mélenchon, un rapport de force sans doute très, très musclé serait engagé avec l'Union européenne et la Commission européenne dans l'idée de convertir l'ensemble de l'Union européenne à des politiques keynésiennes, parce que c'est ça l'idée sous-jacente du nouveau Front populaire. C'était déjà un peu celle de Hollande, il avait dû abandonner, mais ça allait clairement du côté de LFI, c'est de changer le logiciel de l'Union européenne, qui est quand même plutôt un logiciel politique de l'offre, pour engager l'Union européenne dans des politiques keynésiennes, donc financement massif de la dépense, on accepte l'inflation qui va avec, on essaye de rétablir temporairement le pouvoir d'achat de cette manière-là. Donc là, ça constituerait effectivement une vraie rupture politique.
Ouais, j'entends.
Parce qu'il y a un changement de logiciel, on passe d'une politique de l'offre à une politique keynésienne, et là, pour les marchés, pour les détenteurs d'obligations, non seulement françaises, mais aussi européennes,
ce serait un game changer.
Là, c'est un vrai game changer. Ouais. C'est le moment où un rapport de force engagé par des pays puissants de l'Union européenne, évidemment la France, mais on peut imaginer l'Italie qui viendrait se greffer un dispositif. Donc si vous mettez France et Italie ensemble, avec comme idée de changer le logiciel européen pour revenir à des choses plus keynésiennes, là la politique peut faire basculer les marchés. Voilà.
À propos d'Union européenne, Véronique, j'oublie pas que cette séquence française, elle est générée aussi par l'élection européenne. C'était quand même ça le sujet quand même du
c'était
mois de juin.
Le point de départ.
Normalement, c'était le point de départ. Mais enfin, cette élection européenne, elle a toujours eu lieu et elle a produit ses résultats au Parlement européen. Alors, le bloc centriste, la majorité du bloc centriste n'est pas remise en cause. On voit un jeu de repositionnement des droites les plus dures. Intéressant de noter d'ailleurs que le RN va intégrer le nouveau groupe des Patriotes pour l'Europe, emmené et créé par Viktor Orban, Premier ministre hongrois, aujourd'hui président de la présidence tournante de l'Union européenne pour 6 mois. Qu'est-ce que ça nous dit de la trajectoire des politiques menées par l'Europe jusqu'à présent? Est-ce qu'on reste dans le cadre, comme le disait Florent, défini, connu? Est-ce que ça peut nous emmener vers des choses qui étaient peut-être moins prévues ou prévisibles ces dernières années?
Eh bien, d'abord, merci d'aller sur ce terrain, parce que je pense qu'on l'oublie. On oublie quand on est français, parce qu'on est très occupé, forcément, par tout ce qui se passe. Et par nos rendez-vous dominicains au bureau de vote. Mais on a oublié, et je pense qu'on n'a pas passé assez de temps à réfléchir à cette Europe. Et ce qui se passe aujourd'hui, finalement, il y a eu un vote revendicatif dans la plupart des pays européens. Hein, ça s'est soldé par une montée des votes extrême droite en général, avec au Parlement européen, donc 25%. À peu près, je ne suis pas tous les jours, mais a priori, c'est là où on en était arrivé, du Parlement pour cette formation. Première question, comment on en arrive là? Pourquoi? Est-ce que, quelle est la revendication des populations européennes? Est-ce que l'Europe a entendu ce message? Et qu'est-ce que ça veut dire? Je pense que le vote français s'inscrit dans cette problématique-là.
Participe des mêmes mécanismes qui ont amené aussi ces partis-là à avoir plus de pouvoir qu'avant au sein du Parlement européen.
Bien évidemment, me semble-t-il. L'Europe pose d'énormes questions. Elle pose d'énormes questions et pour faire court, et une question qui me semble aujourd'hui absolument cruciale, parce qu'on n'en parle pas beaucoup et nous, économistes, en parlons encore moins, j'ai l'impression, c'est cette problématique de l'élargissement européen qui n'en finit pas. On nous promet une Europe à 37, d'accord ? On ne sait pas trop quand. Ou 34. en étant plus raisonnable. On laisse la Turquie, parce qu'on se dit que ce sera peut-être un peu plus long. Oui. On intègre, on dresse des ponts d'or à l'Ukraine. Ok, on comprend bien pourquoi. Mais qu'est-ce que ça veut dire économiquement ? Ça veut dire que dans une Europe où il y a liberté de circulation des personnes, des biens et des capitaux, on permet, le projet est magnifique, il est unique au monde, il a tout pour lui, sur le papier, on permet à des pays les moins développés de rejoindre le plus grand marché libre européen, de profiter de transferts de capitaux quasi illico, immédiatement, donc de transferts de richesses, plus de subventions, et donc de leur offrir la voie vers une élévation de leur niveau de vie, à une vitesse qui n'est en général jamais observée nulle part ailleurs, hein, à part quelques rares pays d'Asie, et ça commence à devenir denrées rares pour le coup. Mais qu'est-ce que ça veut dire du point de vue fonctionnement économique ? Ça veut dire que constamment, on crée des chocs. On crée des chocs de compétitivité. Le capital est libre de circulation, mais on aime bien quand il reste un peu fixé quand même. Or là, vous créez des conditions où finalement un pays n'a pas fini de se développer. Regardons l'Espagne, hop, il est concurrencé par l'entrée des pays d'Europe de l'Est, hein, qui vont drainer les capitaux et les fonds structurels. Et on abandonne l'Espagne pour se concentrer sur la Pologne et les autres. Et on continue comme ça. Alors quand ce sont des petits pays, c'est pas très grave. Quand on est en pleine globalisation et que cet accès à la croissance qu'on donne à ces nouveaux membres sert de tir, de locomotive un petit peu à l'ensemble, finalement tout le monde y gagne un petit peu. Quand ce sont des partenaires historiques de l'Allemagne ou culturellement très proches de l'Allemagne qui peut délocaliser une large partie de ses coûts de production dans des pays à moindre coût, l'Allemagne y gagne et les autres en ramassent quelques miettes. Et puis, quand c'est la Pologne, ça devient nettement plus compliqué. Quand le reste du monde se referme, qu'il y a moins d'échanges, que la multiplication des échanges, y compris inter-européennes, ne peut plus beaucoup progresser, alors les nouveaux membres mangent sur le dos des anciens.
Donc vous dites qu'on arrive au bout de cette logique qui a permis à tout le monde d'y trouver ici et là son intérêt. Vous dites si l'élargissement devait continuer au regard de l'état du monde aujourd'hui, ça pourrait se faire
beaucoup plus compliqué.
D'accord. À l'encontre des intérêts de certains pays.
Et il faut sur qu'on réfléchisse sur ce processus d'intégration. Ce que je viens de dire, si jamais je suis cité, est juste odieux. Je vais passer pour, je ne sais pas, c'est naturellement pas mes propos. On est tous contents de voir ces pays d'Europe de l'Est.
Mais il ne faut pas qu'il y ait d'impensé par rapport à ça.
Exactement. Mais il faut penser comment faire mieux pour ne pas habiller Pierre en déshabillant Paul. Parce que Paul, c'est le père fondateur de l'Europe. Et Paul, il a ce sentiment de déclassement permanent. On se souvient des histoires des plombiers polonais, alimente ce ressenti. Et alors, avec un Parlement qui, bien sûr, va refléter cet accroissement, dans lequel la représentation des pays, quelque part fondateurs, enfin, pas quelque part, absolument fondateurs, ne se reconnaissent plus. Et donc, tout ceci crée une instabilité, une incompréhension et un manque de visibilité qui est éminemment négatif sur les populations, sur notre contexte social, politique et sans doute économique. J'ai l'impression que là, les dernières jambes d'extension, d'élargissement européenne coûtent davantage qu'elles ne rapportent à l'ensemble.
C'est un vrai sujet
parce que la promesse de prospérité européenne, elle est là.
Ouais.
Il faut y arriver. Et si on n'y arrive pas, ce sera compliqué.
Et si ces votes... parce que, il y a la France, mais pas que. Je veux dire, aux élections européennes, la coalition en Allemagne a subi un revers important. Mélanie s'est bien tenue, effectivement. On voit ce qui se passe aux Pays-Bas avec une plateforme, là aussi, droite dure, droite, qui trouve son chemin. Voilà,
c'est donner des clés
aux
anti-européens, les clés de la gestion européenne dans trop de pays ou dans trop de... dans une part trop large de ce Parlement européen.
Bon, on a pas beaucoup parlé des fondamentaux, mais je veux bien qu'on parle un peu de la logique d'investissement à ce stade. Je le disais sous forme de boutade, la France au sein du MSCI, c'est 2,7%. Le seul poids d'une entreprise comme Nvidia, c'est 4,5%. C'est-à-dire que ça remet un peu aussi les choses en perspective quand on fait de l'investissement global et de l'allocation d'actifs.
Tout à fait d'accord. Hein, donc tout à fait d'accord pour apprécier vraiment le monde. Hein, et voilà. C'est dans ces opportunités d'investissement et éviter de surpondérer de façon excessive un pays ou un secteur dans une allocation d'actifs. Or, si on regarde l'essentiel, la plupart des investisseurs français, ils sont extraordinairement surexposés à la France.
À leur marché, oui.
Pas seulement à leur marché. En règle générale, leur emploi est une entreprise ou une administration française.
Oui, bien sûr, oui.
Leur premier actif est quand ils en ont, c'est de l'immobilier, en règle générale, principalement en France.
Oui, oui. En tant que Français, on est chargé de France.
Ensuite, on a, entre guillemets, de l'assurance-vie, qui porte un nom très, très, très rassurant, et qui en fait des investissements en obligations d'État françaises. Et enfin, sa retraite, elle est déterminée par le flux futur des cotisations entrantes.
Ici, donc c'est un message aux Français, à l'investisseur et à l'épargnant français
ensuite,
que vous adressez. Alors.
Ensuite, pour la proportion faible qui investit en actions, il lui est souvent proposé des investissements français ou en zone euro. La zone euro dont la France représente une voilà. Donc c'est quelque chose qui est assez important selon nous et il convient d'autant plus d'être diversifié au niveau mondial qu'on n'est pas du tout diversifié pour le reste.
Internationalisation des portefeuilles et des allocations.
C'est très important et d'autant plus qu'on est dans une situation où selon nos ratings on a des ratings quand même faibles sur les marchés développés. Élevé seulement sur les marchés émergents. Et alors avec des marchés émergents qui ne font pas tellement envie dans le cas de la Chine.
Non.
Le Brésil, on peut se poser aussi des questions quand même, en termes de qualité, entre guillemets. Il y a un marché émergent qui nous plaisait beaucoup depuis 2 ans, c'est l'Inde.
Ouais.
Notre rating a baissé sur l'Inde, mais le sentiment de marché reste très favorable. Et quand on regarde dans l'histoire, même quand on avait un rating faible sur l'Inde, le marché indien, en devise locale, continuait de progresser en moyenne.
Le momentum.
Voilà. Sur le très long terme, ça nous paraît toujours intéressant d'être en Inde.
Bon. Internationalisation, regardons au-delà effectivement de nos seules frontières. Quel est le message et la logique d'investissement qui prévaut pour vous à partir de ce début de deuxième semestre 2024 Florent, on n'a pas le temps d'évoquer tous les sujets de banque centrale, etc. Mais voilà, est-ce qu'il y a quand même encore un environnement porteur effectivement pour être exposé au risque sur les marchés?
Oui, on continue d'avoir des allocations effectivement très, très internationales. On n'a pas opéré de mouvement sur les portefeuilles européens au regard de la situation politique, conformément à ce que j'ai essayé de démontrer. Et on a, je dirais, les grands choix du portefeuille, c'est de rester exposé aux actions américaines, mais plutôt sur la santé ou les valeurs bancaires, d'avoir une allocation tout à fait correcte aux actions européennes. Et puis, de manière générale, dans la perspective de la baisse annoncée des taux directeurs des banques centrales qui nous semble être à peu près balisée, même si les banques centrales ne veulent pas trop s'engager à ce stade, on a de la duration les portefeuilles pour bénéficier, on l'espère, de cette détente des rendements obligataires à venir.
Bon, on en saura peut-être un peu plus cette semaine avec les prises de parole de Jérôme Poel attendues juste avant la publication du rapport mensuel sur l'inflation aux États-Unis. Merci beaucoup à vous trois d'avoir été les invités de Planète Marché. Florent Delorme, MNJ Investments, Gilles Bazissier, Equity GPS et Véronique Riche-Flores, RF Research.